Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler matières premières, le pétrole et le cuivre, le soja et l'or. Rares sont les produits de base qui échappent à la baisse des cours. Pendant presque 10 ans, chaque jour a amené sa hausse et puis depuis un peu plus d'1 an, patatras, les prix se sont effondrés. L'origine n'est apparemment pas très mystérieuse, c'est la Chine dont l'appétit se réduit à raison d'une moindre croissance. Mais quelles conséquences a cette baisse des prix des matières premières pour l'économie mondiale, pour les pays producteurs et consommateurs, pour les entreprises petites ou grandes qui en font commerce ou négoce? Telles sont les questions que je vais poser aux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Philippe Chalmin.
Bonjour.
Philippe Chalmin, vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine et tous les ans vous publiez Cyclope, un annuaire des matières premières, une somme qui fait autorité et qui est même traduite en anglais par les Nations Unies, si je ne me trompe pas. Philippe Chalmin, peut-être serait-il bon, pour le début de cette émission, de donner une définition. C'est quoi une matière première?
Alors, on parle de matière première, on parle de commodité. Quand on parle de matière première, on fait référence à un produit à l'état brut, ou aussi peu transformé que possible pour le rendre quand même propre à un échange international. En clair, la canne à sucre est un produit de base, mais il faut transformer la canne pour en faire du sucre, qui lui sera une matière première. Maintenant, le mot a évolué aussi, et on parle beaucoup plus de commodité. Et par commodité, on fait référence à tous les produits, mais aussi à des services, à des instruments financiers, dont le prix se forme par ajustement de l'offre et de la demande sur le marché mondial, et donc se traduit par une instabilité. Et dans ce sens, des produits transformés, comme les produits raffinés du pétrole, comme l'acier, comme les grandes bases de la chimie, comme un certain nombre de produits alimentaires, sont des commodités. Et cet ensemble des commodités, ça couvre quand même aujourd'hui près de 2/3 du commerce mondial.
Alors nous allons poursuivre ce tour de table avec vous, Didier Julienne, bonjour.
Bonjour.
Didier Julienne, vous êtes consultant, vous avez sur le site internet des Échos un blog très lu consacré aux matières premières. Sur votre curriculum vitae, on trouve aussi le géant russe du nickel, Norilsk, que vous avez représenté en Europe. Didier Julienne, vous connaissez très bien le secteur des métaux précieux. Première petite question, est-ce que l'or est toujours une valeur refuge?
Non. Je ne crois pas que l'or soit encore une valeur refuge, pour la simple raison que son prix a considérablement baissé depuis maintenant 3 ans, alors que l'instabilité financière et l'instabilité économique n'a fait qu'augmenter. Par conséquent, l'aspect refuge, lui, a, si je puis dire, s'est totalement envolé de la valeur des prix de l'or, dont les prix aujourd'hui ne représentent qu'une valeur économique, c'est-à-dire quelle est la valeur d'un produit par rapport à son marché et surtout par rapport à ses coûts de production.
Alors avec nous également Claire Fage, bonjour Claire Fage.
Bonjour, bonjour à tous.
Claire, les auditeurs de RFI vous connaissent bien, très bien, vous êtes la spécialiste maison des matières premières que vous chroniquez tous les jours sur l'antenne. Le milieu des matières premières, Claire, pour une journaliste, c'est un milieu très ouvert qui donne facilement les informations que vous réussissez à distiller tous les jours.
Allez, il a, c'est vrai, une réputation de secret. C'est valable surtout pour les grandes maisons de négoce. Dreyfus, pour ne pas la citer, ne donne pour consigne à ses traders de ne jamais parler travail avec les journalistes, par exemple. Mais on peut accéder à des maisons plus modestes, des gens qui parlent facilement de leur métier et du marché, il ne faut pas exagérer.
Alors, au cours de cette émission, beaucoup de reportages à Pékin avec Heike Schmidt pour parler baisse des cours de l'acier, à Santiago du Chili avec Claire Martin pour évoquer les conséquences de la baisse des cours du cuivre, au Rwanda avec Stéphanie Aglietti et au Canada avec Karim Lipold pour parler baisse des cours du pétrole. Philippe Chalmin, quelle est l'ampleur globale de la chute des cours des matières premières?
Écoutez, sur notre indicateur, tous les jours on calcule un indicateur cyclope.
L'autre, c'est cyclope, oui.
C'est cyclope, qui est un panier de matières premières. Et tous les paniers se ressemblent tous un peu. Il y a de l'énergie, il y a des métaux, il y a des produits agricoles. Nous sommes, depuis la mi-2014, nous sommes sur une baisse de 30 à 35% à peu près. Et je reprends un peu ce que vous avez dit en introduction. C'est vrai que nous venons de vivre une rupture assez fondamentale, la fin d'une période de très forte tension qui aura duré grossièrement de 2006 à 2014, un peu identique à ce qu'on avait connu dans les années 70. Et on voit bien que on a là un comportement presque cyclique des marchés, avec des périodes de forte tension, propices donc à l'investissement, à l'ouverture de nouvelles capacités de production, à des développements technologiques. Et puis, lorsque toutes ces productions arrivent sur le marché, eh bien, on ouvre une nouvelle période, ce dans quoi nous rentrons, je le crois, qui sont des périodes souvent assez longues, de prix relativement déprimés.
Claire Fage, je me tourne vers vous. Vous avez, vous, votre observatoire à vous, qui est la chronique des matières premières. Vous constatez, vous aussi, cette chute brutale des cours des matières premières?
Ah oui, puis c'est complètement généralisé. Tous les secteurs sont concernés, que ce soit l'énergie, les métaux, les matières premières agricoles. On est face à de tels surplus de production dans tous les domaines et une conjonction en fait de surplus, parce que la météo a été bonne aussi pour les céréales. On a des stocks extraordinaires alors qu'on pensait que la planète allait mourir de faim en 2008. Donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Il y a une ou deux exceptions, peut-être le cacao qui continue à très bien se porter parce que on a anticipé un déficit, voire une pénurie de chocolat un jour qui n'arrive pas, puis de cacao, puisque la Côte d'Ivoire a encore eu une récolte exceptionnelle cette année. Donc, et puis éventuellement, l'uranium remonte, mais bon, il était tombé tellement bas en 2011 après la catastrophe de Fukushima que c'est même pas une exception.
Je vais juste dire une chose, c'est que les prix ont baissé, mais nous n'avons pas atteint les tréfonds des années 2008-2009, loin de là. Certaines matières premières aujourd'hui sont en baisse, mais sont beaucoup plus élevées qu'au plus fort de la crise 2008-2009. Beaucoup plus élevées, je prends l'exemple du cuivre par exemple. D'autres matières premières sont quasiment à parité avec les niveaux de 2008-2009, et d'autres sont un petit peu en dessous, mais... Pour rester dans l'exotique, je me suis documenté rapidement sur les cours des matières premières qui me semblaient intéressantes, et j'ai été sur le site du Fonds monétaire international. J'ai trouvé une matière première qui est en très forte hausse, en plus du café, c'est la banane.
Alors, il y a des pays pour lesquels ça n'est pas du tout anecdotique.
Bien entendu, c'est pour ça que je signale.
Au Costa Rica, au Cameroun.
Pour tout ce qui. Alors là, je n'ai pas d'explication parce que je ne suis pas un spécialiste de la banane, mais j'avoue que j'ai été impressionné par la courbe.
Mais alors, vous dites, Didier Julienne, que les cours étaient tombés très bas en 2008-2009.
Oui, plus fort
Philippe
de la crise.
Philippe Panin,
oui.
Vous disiez, le cycle, vous le fixiez jusqu'en 2014.
Non, parce que je ne prends pas 2008-2009 comme une référence. C'est vrai que. À l'automne 2008, au lendemain de la crise financière, tous les marchés ont dévissé. Comme d'ailleurs toute chose en ce bas monde a dévissé. Et la reprise se fait grossièrement à partir de la fin des vacances du Nouvel An chinois 2009, et on va atteindre de nouveaux sommets en 2010-2011. Pour moi, la bonne référence, et vous avez raison, nous sommes revenus à peu près aujourd'hui au niveau qui était ceux de 2005. Nous sommes à des niveaux en général.
Pas pour tout, non.
En général.
Pour d'autres, nous sommes quand même bien au-dessus. Je prends le pétrole, je prends le cuivre.
Pétrole en 2005.
On est encore au-dessus.
Ah non. Sur le pétrole en 2005, on commençait à être dans la zone des 50-60 dollars, là où nous sommes aujourd'hui. En 2008, on est monté à 147. on est tombé à 30. Et ensuite, on s'était stabilisé aux alentours de 110 dollars le baril.
Des accords de Didier Julien
sur le cuivre, je serais d'accord avec vous.
Moi, je prends les chiffres que j'ai retrouvés sur le FMI avec des courbes qui sont assez parlantes. Je ne vais pas discuter pour 5 ou 10 dollars, mais il me semble que pour les matières premières, je dirais pas les plus importantes, mais des matières premières prépondérantes que peuvent être le pétrole ou le cuivre, voire même l'aluminium, nous sommes légèrement au-dessus. En revanche, le charbon, le gaz, alors là, on est carrément dans les choux. Le nickel, on est dans les choux, c'est-à-dire on est à des niveaux qui sont extrêmement bas.
Sur l'aluminium, on n'a jamais été aussi bas. Hein. Oui, sur l'aluminium, on est aujourd'hui...
Non, je parle par rapport à 2008-2009, on est encore... Mais qui pour vous n'est pas une référence. Je comprends très bien. Moi, je prends ça comme étant un point bas, un des points, disons, de crise, donc très bas. Et pour moi, ça devient une référence en me disant, là... tout le monde avait quitté le navire, quasiment, y compris ce que j'appelle la spéculation. Et par conséquent, on a une photographie des prix à ce moment-là, 2008.
Oui, alors, je vous arrête parce qu'on ne va pas faire un débat sur les niveaux de prix entre 2008-2009 et aujourd'hui. Mais je voulais, Claire Fage, me tourner vers vous. Tout à l'heure, vous parliez de certains produits tropicaux, le cacao. Est-ce que le coton, par exemple, qui n'est pas vraiment parlé un produit tropical, pas seulement en tout cas, est aussi victime de cette chute des cours?
Oui, bien sûr. En fait, il est victime des surplus, comme beaucoup d'autres matières. On a des stocks mondiaux qui valent à un an de consommation, et la moitié de ces stocks se trouve en Chine. Or, les importations de la Chine ralentissent, voire baissent, là, cette année, carrément. Et on est au plus bas des besoins chinois, pratiquement, sur le marché. Et c'est pas compensé par les importations plus grandes des autres pays d'Asie du Sud-Est.
Alors, Claire, vous parlez de la Chine. Même si vous le contestez, Philippe Chalmin, mais je vous laisserai le redire tout à l'heure, l'un des grands facteurs de cette baisse des cours, c'est l'atterrissage de l'économie chinoise. Les cours mondiaux de l'acier et du minerai de fer s'en ressentent. Écoutez ce reportage de la correspondante de RFI en Chine, Heike Schmidt à Tangshan, un des hauts lieux de la production d'acier dans le Hebei, une province très proche de Pékin.
Entrepôts désaffectés, restaurants aux tables vides, terrains vagues envahis par les mauvaises herbes. Tangshan, la capitale de l'acier, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le boom immobilier est fini, l'État n'investit plus massivement dans les infrastructures. Du coup, l'usine Baoding, qui produit des rouleaux d'acier, tourne elle aussi au ralenti.
L'industrie de l'acier était très importante ici. Je crois que la moitié de la population locale travaillait dans le secteur. Maintenant, tout le monde subit le déclin. De nombreuses usines ont été fermées. Les gens ont dû trouver d'autres emplois ou bien ils restent à la maison et ne font plus rien. L'acier était le moteur pour toute l'économie locale. Les restaurants et tous les autres services sont affectés.
Les prix pour l'acier sont au plus bas et pour la première fois en 30 ans, la consommation intérieure est en recul. S'y rajoutent des lois anti-pollution plus strictes. Mais le pire, se plaint ce revendeur d'acier, ce sont les surcapacités.
Il y a trop d'usines d'acier en Chine. J'ai lu que même si nous arrêtions la production, nous aurions encore assez d'acier pendant les 5 ans à venir.
Aujourd'hui, 300 millions de tonnes d'acier sont stockées dans les entrepôts chinois et plombent encore davantage ce secteur en crise.
Alors Philippe Chalmin, la Chine quand même.
Situons-nous à l'amont de l'acier sur le marché du minerai de fer. Le minerai de fer, début 2014, vaut 135 dollars la tonne coûté fret pour chinois. Aujourd'hui, on est à 50 dollars la tonne. Les importations chinoises de minerai de fer n'ont pas baissé. Sur les 8 premiers mois de l'année, elles sont équivalentes aux 8 premiers mois de 2014. La baisse des prix du minerai de fer est liée par contre à la stratégie de développement de production des grands mineurs, notamment australiens, BHP et Rio Tinto, qui sciemment, un peu comme l'Arabie Saoudite pour le pétrole, ont joué l'augmentation de la production pour essayer de sortir les producteurs à coût de production élevé du marché. Pour la
seule, ils sont pas parvenus. Comment ça sur l'acier?
Ça a diminué quand même le coût de production de l'acier. Alors que, par ailleurs, vous ayez effectivement une diminution de la consommation d'acier en Chine. De ce fait, une surcapacité mondiale d'acier et en particulier des excédents d'acier sur lesquels les Chinois font du dumping. On estime cette année que la Chine va exporter 100 millions de tonnes d'acier. Ces 100 millions de tonnes d'acier, on les retrouve dans les cours de l'acier qui s'effondrent un peu partout. Mais Je le répète, lorsque je regarde le marché, qui est quand même un peu, à mon sens, dans cette filière de la sidérurgie, le vrai marché directeur, c'est le marché du minerai de fer. Et sur le minerai de fer, c'est la faute aux Australiens. C'est pas, pour l'instant, la faute à la Chine.
C'est pas la faute à la Chine, Didier Julien?
Alors, moi, je suis d'accord, tout à fait d'accord. On a beaucoup trop accusé la Chine. Et dans tous les domaines, que ce soit les métaux, que ce soit l'énergie, que ce soit les produits agricoles. Et je trouve que c'est une erreur. Car, au début, il y a une production, quelle qu'elle soit, que ce soit du minerai de fer, du charbon, du pétrole, des produits agricoles. Et par conséquent, les producteurs sont à la base d'une hausse ou d'une baisse des prix, avant les consommateurs. Il faut prendre les choses de manière chronologique à la fin. Ensuite, si les Chinois ont beaucoup progressé dans l'acier, ça je l'ai écrit mille fois, c'est parce qu'ils en avaient un besoin local. N'est-ce pas? Ils avaient besoin de construire des villes. Ils avaient un exode rural à étancher et donc construire des villes. Ensuite, une fois que cette première étape est passée, eh bien, ils sont montés en gamme, c'est-à-dire qu'ils sont passés de l'acier carbone à l'acier inoxydable. Et petit à petit, ils font exactement ce que fait l'Arabie Saoudite dans le pétrole ou d'autres. Ils essayent de conquérir des parts de marché. Aujourd'hui, ou plutôt cette année, ils vont produire autant que le Japon qui est le numéro 2. Pardon, ils vont exporter autant d'acier que le Japon qui est le deuxième producteur mondial n'en produit. Et donc, on a là un gain phénoménal de parts de marché. C'est en quelque sorte, c'est le marketing qui a pris le pas sur la production. Et cela, on le voit dans tous les secteurs, que ce soit dans le minerai de fer, où on essaye d'éliminer les plus faibles, n'est-ce pas? La Mauritanie, certains pays d'Afrique, certains pays d'Amérique du Sud ont disparu littéralement du marché du minerai de fer, au profit du Brésil et de l'Australie, qui ont tout de même, rappelons-le, des coûts de production à $15 lorsqu'on le vend à 50.
Donc c'est parfaitement rentable, ils peuvent continuer.
C'est parfaitement logique de la part des plus grands producteurs d'agir de cette manière-là. C'est parfaitement logique pour le Golfe, le Golfe Persique, de produire du pétrole plus que d'autres, parce qu'il le produit lui aussi à $2 ou $3 et il le vend à un prix tout à fait conséquent. Et on s'aperçoit que cette prépondérance du marketing sur la production, on le retrouve également dans la matière première ou la commodité, le plan comme on veut, qu'est l'acier. La Chine a décidé de produire, d'être le premier producteur d'acier comme elle l'est dans d'autres métaux, et elle l'a décidé. Et donc, elle dit, bon, bah aujourd'hui, j'en ai trop pour ma propre consommation parce que j'ai rempli les premières étapes, donc j'exporte. Et la prochaine étape qu'elle va franchir, à mon avis, c'est exporter tout cet acier à travers ce qu'elle appelle la route de la soie, c'est-à-dire la route de la soie terrestre, grâce à la construction de chemin de fer.
Vers l'Asie centrale et la Russie.
Exactement. Grâce à la construction de voies de chemin de fer qui vont permettre de diviser par 4 le coût d'un conteneur qu'on envoie par avion, d'acheminer ce conteneur par ferroviaire à 30 jours plus court que par la mer, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la première étape. Et la seconde, c'est bien entendu la route de la soie maritime, où là encore, la Chine, qui produit énormément de matières premières, acier et autres, va dire, bon, mais écoutez, moi, je vais équiper vos ports, n'est-ce pas? Sur tout ce qu'on appelle auparavant le coulée de perles, et jusqu'en Afrique, ils vont construire des ports, des aéroports, des routes.
Ils ont déjà commencé.
Bien entendu. Et cela va permettre à toute la production de l'industrie de l'infrastructure chinoise d'exporter de l'acier, d'exporter du ciment et autres.
C'est ce qui explique la baisse des prix de l'acier en Europe en particulier. Enfin, ils ont du mal à être concurrentiels, à faire face. Ils sont inondés de surplus chinois.
Oui,
bah,
y a une économie d'échelle en Chine qui est phénoménale dans ce domaine.
Philippe,
ça peut se concevoir pour l'acier, sur lequel, bon, à la limite, la Chine dispose de charbon à coke, donc ils importent certes du minerai de fer, mais
ils en produisent aussi.
Ouais. Ils en importent beaucoup quand même. Hein.
Oui, bien sûr, ils en produisent aussi.
Il y a un secteur, il y a un produit qui est peut-être le métal le plus déprimé qui soit, sur lequel j'avoue que la stratégie chinoise confine à l'absurdité, c'est l'aluminium.
Alors on en parlera, Philippe Chalmin, dans la deuxième partie de cet écho d'ici écho, d'ailleurs consacré aux matières premières, après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons matières premières et baisse des cours avec trois invités. Didier Julienne, consultant spécialiste des métaux. Philippe Chalmin, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Cercle Cyclope, et Claire Fage, journaliste à RFI, spécialiste des matières premières. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons vu que, contrairement aux apparences, la Chine n'était pas tout à fait la première responsable de la chute des cours de ces matières premières. Et l'un des métaux dont le prix a beaucoup baissé, c'est le cuivre. Le premier producteur mondial, c'est le Chili. Et à Santiago, on s'inquiète énormément de cette baisse des cours. Un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Signé Claire Martin à Santiago du Chili, qui nous emmène dans une mine de cuivre.
Permiso, permiso, jóvenes.
Escuchando. 5, 4, 3, 2, 1, fuego.
Le Chili est un pays exportateur de matières premières. Sa principale ressource, le cuivre, le métal rouge, représente 50% de ses exportations, 25% de son PIB. Qui dit chute mondiale des cours du cuivre, dit un pays plus pauvre. Les principales entreprises minières mettent un frein à leurs projets, à leurs investissements. L'économiste Thomas Fabre.
Cette baisse d'investissement veut dire pour nous une croissance plus modeste. De la même manière, cette chute des cours du cuivre nous a rendus plus pauvres face au reste du monde, car notre monnaie s'est dévaluée. Un dollar correspondait avant à 500 pesos. Aujourd'hui, il correspond à 700 pesos. Donc, tous les biens importés sont devenus plus chers pour nous.
Ramiro Galeano explique la cause de cette dévaluation. Il travaille pour Forex Chile, une agence de conseil en investissement financier.
La chute des cours du cuivre signifie moins de dollars qui entrent au Chili, car nous, on achète le cuivre avec des dollars. Comme il y a moins de dollars qui entrent dans le pays, le peso chilien perd de la valeur face au dollar, ce qui veut dire plus d'inflation dans le pays.
Moins de pouvoir d'achat, une consommation en baisse, une économie au ralenti, mais un chômage qui se maintient à 6,5%. Jorge Cantalops est un des directeurs de Cochilco, organisme public spécialiste de l'industrie minière.
Le secteur minier au Chili n'est pas une activité qui crée beaucoup d'emplois. On estime le nombre de travailleurs entre 220 000 et 240 000. Et au moins 10 000 d'entre eux ont été licenciés depuis la chute des prix.
L'économie du cuivre représente 10% des ressources budgétaires. La baisse du prix du cuivre veut donc dire moins d'argent dans les caisses de l'État. Thomas Fabre.
Cependant, dans le cas du Chili, nous avons une règle budgétaire qui permet de diminuer l'impact de la variation des cours du cuivre sur le budget de l'État. Chaque année, un comité d'experts se réunit pour estimer le prix du cuivre de la prochaine décennie. Et le budget de l'État est établi à partir de ce chiffre. Quand le prix du cuivre est plus élevé que ce chiffre, l'argent collecté en plus par l'État doit être économisé. Cet argent est à disposition du gouvernement en cas de baisse du prix du cuivre. Aujourd'hui, le gouvernement chilien dispose donc de près de 14 milliards de dollars d'économie.
Le gouvernement de Michel Bachelet revoit quand même son budget à la baisse. Il devra peut-être réduire la portée de sa principale réforme, la réforme de l'éducation particulièrement onéreuse, mais très attendue par les Chiliens.
Un reportage signé Claire Martin à Santiago du Chili. Philippe Chalmin, ce que nous décrit Claire Martin, c'est le piège de la dépendance excessive à une matière première ?
Oui et non, parce que le Chili est quand même un cas relativement exceptionnel, et comme le soulignait en première partie Didier Julienne, la situation dans le cuivre n'est pas la pire de tous les métaux. On est grossièrement aujourd'hui à 5500 dollars la tonne, le prix de revient moyen de production mondiale est inférieur à 5000 dollars, et comme les Chiliens sont plutôt dans le bas de la fourchette, ils doivent traîner aux alentours de 3500 ou 4000. Et le Chili a bien géré la rente, un peu sur le modèle mythique de la Norvège et du pétrole, en ce sens que, comme ça a été expliqué, ils ont su garder l'argent des bonnes années pour pallier aux mauvaises années, ce qui leur avait permis d'ailleurs ces dernières années de faire la reprise contre-conjoncturelle qui permet quand même au Chili d'être un des pays latino-américains qui s'en sort le mieux. La situation chilienne est largement meilleure que celle du Brésil, dont on avait dit c'est le grand pays émergent, et dont on se rend compte que lui aussi est terriblement dépendant de matières premières, dont les prix baissent aussi, fer ou soja. Donc, je dirais que pour moi, le Chili, c'est un des rares contre-exemples de pays qui ait su gérer la rente et qui est un peu échappé à la malédiction des matières premières.
Didier Julien, le contre-exemple chilien ?
Justement, la malédiction, je voudrais donner tordre le cou à cette malédiction des matières premières.
À l'idée que les matières premières sont une malédiction ?
À l'idée elle-même, parce que les matières premières, elles n'y sont pour rien. On les produit, on les vend. Donc elles ne sont pour rien dans cette espèce de malédiction. Comme le dit Philippe Chalmin, il y a un Chili, moi j'ai envie de dire tout simplement, pour chaque Venezuela dans le pétrole, il y a une Norvège, et puis pour chaque République démocratique du Congo, il y a un Chili. C'est-à-dire que lorsqu'il y a de bonnes dispositions politiques, de bonnes structures politiques, qui ont permis aux revenus des matières premières, de se désengager de la politique, c'est-à-dire d'être inoculé de la politique, d'être indépendante de la politique locale, eh bien, on s'aperçoit que dans ces pays-là, si je puis dire, il n'y a pas de malédiction, entre guillemets.
C'est-à-dire que c'est bien géré.
Parce que c'est bien géré. Est-ce qu'il y a une malédiction du pétrole en Norvège ? Je sais que c'est l'exemple. Hein. Bon, je dis non. Est-ce qu'il y a une malédiction du pétrole au Venezuela ? J'ai envie de dire oui, pourtant c'est le même pétrole. C'est simplement qu'il est mal géré, n'est-ce pas ? J'écrivais récemment dans un journal de République démocratique du Congo, et qui s'appelle Mining and Business, n'est-ce pas ?
En français, dans le texte.
Et c'est un journal bilingue, français et anglais. Et j'étais amené à commenter la récente décision de Glencore de fermer ses usines de ses mines de cuivre en République démocratique du Congo.
En Zambie, exactement.
Et on me disait, vous voyez, c'est la malédiction des matières premières. Pas du tout. On a simplement un mineur qui produit à $5,500, donc il perdait à l'époque, lorsqu'il a décidé ça, il perdait $200 la tonne, et il s'est dit, j'arrête pendant 18 mois, je modernise, et lorsque je reprends, je produirai à $3,200. Bon, c'est une formidable opération, mais c'est la culture Glencore, c'est-à-dire réagir plus vite et plus fort que tous les autres. Donc Glencore, il se désendette, il augmente son capital, il ferme temporairement des mines, il les modernise. C'est une manière de faire, moi j'approuve, n'est-ce pas ? Je trouve que c'est très bien géré. Mais là encore, on va dire, oui, c'est une malédiction des matières premières en République démocratique du Congo. Pas du tout. C'est simplement géré par une multinationale qui gère ça avec sa logique dans un pays qui n'a pas su faire de réserve parce qu'il n'a pas géré son cuivre comme le Chili.
Philippe Chalmin,
je serais d'accord avec vous. Le problème est que nous n'avons que deux exceptions sur le marché. Trois peut-être si je rajoute le Botswana la gestion du diamant.
Oui, oui.
Mais pour le reste...
Non, mais tous les pays du Golfe, par exemple.
Tous les pays du Golfe sont des exemples types. La malédiction du pétrole. L'Arabie Saoudite, tous les Émirats d'Opérette, ils ont un fiscal break-even qui se balade entre 80... C'est le niveau du prix du pétrole auquel ils équilibrent leur budget, qui se balade entre 80 et $100 le baril. Tous ces pays, ils ressemblent à des coureurs autour de France qui prennent de la dope pour passer les cols et qui ensuite sont tellement accros à ce dopant qu'ils ne peuvent plus s'en passer. Ne me parlez pas de développement économique. La Russie est un extraordinaire exemple de la malédiction des matières premières. La Russie poutinienne est un vulgaire émirat pétrolier et rien d'autre. Et je vous signale quand même que les économistes avaient été étudiés, parce que là je parle malédiction des matières premières, c'est-à-dire le fait que cet argent tombé du ciel, qu'on le veuille ou non, il corrompt les circuits économiques, il corrompt surtout les âmes, les cœurs et les corps des dirigeants. Mais le côté sérieux chez les économistes, on parle de mal néerlandais, c'était l'impact qu'avait eu l'exploitation du gaz de Groningue sur l'économie néerlandaise au début des années 60.
1960.
Voilà, oui. Et on avait bien vu à ce moment-là que l'effet disruptif du point de vue macroéconomique avait plongé les Pays-Bas en récession. Et si on est méchant, on remarquera que quand même, des quatre pays scandinaves, c'est la Norvège qui, sur la longue période, a eu le taux de croissance le plus faible. Je dis pas qu'il y a une relation de cause à effet, mais quand même. Donc, je suis désolé, la malédiction des matières premières, c'est une histoire, et c'est une très vieille histoire. N'oubliez pas la faillite de l'Espagne de Philippe II en 1560, alors qu'arrivaient les navires chargés d'or et d'argent du Nouveau Monde.
Ce que vous dit Philippe Chalmin, Didier Julien, oui. C'est que ça n'est pas seulement un problème de gestion politique, que c'est aussi un problème purement économique, cette malédiction des matières premières.
Non, moi j'estime que c'est un problème politique, parce que si c'est bien géré, ça marche bien. Et j'aimerais à ce moment-là, auditons toutes les structures politiques de ces pays où il y aurait une malédiction. Je ne dis pas que ces pays se portent bien lorsque les prix des matières premières baissent, n'est-ce pas? Parce que c'est pas ce que je veux dire. Mais je remarque qu'il y a des pays qui se portent beaucoup mieux que d'autres avec les mêmes matières premières exploitées, même si les prix baissent. Et je veux dire par là que lorsque le gouvernement norvégien, il y a 20 ou 30 ans, décide de mettre de côté la gestion de la manne pétrolière dans une structure indépendante des mouvements politiques du pays, elle a bien fait. Et si tous les pays pouvaient faire la même chose, à partir de ce moment-là, on ne parlerait peut-être plus de malédiction de matières premières, mais beaucoup plus d'une certaine performance des États ou des fonctionnaires à bien gérer la manne qui provient des matières premières.
On va laisser la parole à Claire Sage.
Le problème, c'est peut-être le manque de diversification économique, parce que quand un produit de base dont le prix, quand son prix s'effondre, effectivement, c'est une catastrophe. Le Ghana, ça a été vraiment la belle surprise pour le Ghana au cours de ces 10 dernières années, la découverte de pétrole, mais le revers de la médaille, on le voit aujourd'hui.
Non mais malheur au pays qui découvre du pétrole sur son sol. Regardez, alors,
malheur au pays qui gère mal du pétrole, n'est-ce pas ?
Le problème, alors c'est quand même assez propre au pétrole et aux hydrocarbures en général. Le problème, c'est que c'est très difficile à bien gérer la vertu. Est quand même extraordinairement difficile. Claire a raison. Le Ghana était un pays qui avait très bien géré la rente du cacao. Le cocoa board, c'était un exemple que tout le monde citait. Et c'était remarquable. Il suffit qu'il découvre du pétrole.
Alors le cocoa board, c'était l'organisme ghanéen qui gère le cacao.
L'office de commercialisation du cacao, le monopole du cacao, le monopole d'État du cacao au Ghana. Ça a fonctionné remarquablement bien. Il suffit qu'ils découvrent du pétrole, qu'ils l'exploitent. L'année dernière, ils ont été obligés d'aller faire la manche au FMI pour leur fin de mois. Regardez le Nigeria. Le Nigeria, avant le pétrole, c'est le grenier de l'Afrique. Aujourd'hui, le Nigeria est un des plus gros importateurs mondiaux de produits alimentaires. Parce que, tout simplement, c'est vrai, l'argent facile permet d'importer, fait s'effondrer les prix sur les marchés locaux, et vous avez toute une économie qui se trouve complètement bouleversée si l'on n'a pas le courage qu'a eu, puisqu'on repart du Chili, qu'a eu le Chili de mettre les sous du cuivre.
Donc c'est possible.
À l'écart.
Donc c'est possible.
Mais la vertu est rare.
Alors avançons possible. Un peu. On sait que la Chine vient beaucoup se fournir en matières premières africaines, mais les pays africains ne sont pas seulement fournisseurs de pétrole, par exemple. Il y a aussi chez eux des pays importateurs. Et pour eux, la baisse des cours du brut n'est pas une mauvaise nouvelle. Exemple avec le Rwanda. C'est un reportage Éco d'ici Éco d'ailleurs, signé Stéphanie Aglietti à Kigali.
Dans cette station essence de Kigali, à la pompe, la baisse des cours fait des heureux. Depuis décembre 2014, le prix du litre d'essence de diesel a baissé d'environ 11%. Une aubaine pour Nsengi Mana, ce chauffeur de mototaxi.
C'est une bonne chose. J'ai pu baisser en moyenne de 100 francs le prix de mes courses. Les clients sont contents et leur nombre a augmenté.
Idem pour ce loueur de voitures et de minibus.
Avant, le litre était au-dessous de 1000 francs. Maintenant, c'est aux alentours de 880 francs. C'est bien pour nous. Ça nous permet de faire baisser le prix de la location de nos véhicules, vu que les clients le louent avec le plein d'essence.
Les achats de pétrole représentent 25% de la facture totale des importations du pays. La baisse des cours mondiaux a donc permis au Rwanda, dont la balance commerciale est déficitaire, de moins puiser dans ses précieuses réserves de devises. Selon Thomas Kigabo, l'économiste en chef de la Banque nationale, ces prix moins élevés ont également permis au Rwanda d'amortir une baisse de ses exportations, notamment de minerais.
Les gains que nous avons eus par le fait que le prix du pétrole a diminué nous a permis de compenser un peu donc cette réduction en termes de nos exportations. Ça, c'est extrêmement important. Si vous lisez à nos chiffres, au fait, le niveau de déficit n'a pas beaucoup changé. Il s'est même amélioré un tout petit peu. Ça nous a permis de limiter l'impact des chocs de manière à continuer à avoir des résultats comme prévu.
Selon Thomas Kigabo, cette baisse des cours a également permis de contenir un niveau d'inflation à 3,7% malgré une récente hausse du prix des denrées alimentaires due à un retard de la saison des pluies. Mais pour Baizi Breckman, économiste indépendant, cette baisse des cours aurait pu être encore plus profitable si le Rwanda avait un secteur industriel développé.
Dans une économie comme celle du Rwanda, dans laquelle notre base industrielle est toujours petite, la baisse du prix du pétrole n'aura pas vraiment d'impact sur les coûts de production. Les bénéfices sont surtout bornés à la baisse des coûts de transport. Sachant que le Rwanda est un pays enclavé, il est plus facile de transporter nos marchandises et cela rend donc nos exportations plus compétitives.
Selon la Banque mondiale, les coûts de transport ont baissé de 4%. Le coût des importations d'énergie a quant à lui baissé de 20 à 40% entre novembre 2014 et avril 2015.
Alors c'est un reportage signé Stéphanie Aglietti à Kigali au Rwanda. Nous sommes dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI et nous parlons baisse du cours des matières premières avec trois invités, Claire Fage, Didier Julien, Philippe Chalmin. Dans ce reportage, bien, on comprend que les pays consommateurs profitent un tant soit peu de la baisse des cours du pétrole, mais est-ce que c'est simplement entre pays producteurs qui souffrent et pays consommateurs qui en bénéficient un système de vases communicants ou est-ce qu'il y a un autre impact sur l'économie mondiale? Est-ce que la baisse des cours des matières premières, c'est par exemple un ralentissement ou au contraire une accélération du commerce? Philippe Chalmin.
Bah, écoutez, la baisse des prix de l'énergie, par exemple, est un facteur non négligeable dans le rebond de la croissance des États-Unis. Le vrai moteur de la croissance économique mondiale aujourd'hui, ce sont les États-Unis. Et sur les 3%, ils roulent à peu près à 3% de croissance. Il y a bien 1% qui est lié à la révolution énergétique qu'ils connaissent, que ce soit sur le pétrole, comme tout le monde, et surtout sur le gaz naturel. C'est vrai que quand on regarde l'impact sur l'économie mondiale, bah, vous avez des pays qui souffrent et qui étaient parfois des pays qui faisaient un peu illusion, certains pays émergents ou soi-dit émergents, bah, Brésil, Russie, Afrique du Sud, hein, dans les
BRICS.
Bah, le mot BRICS n'a jamais eu beaucoup de sens parce que la Russie n'a jamais été un pays émergent, l'Afrique du Sud certainement pas non plus. Quant au Brésil, j'ai toujours eu quelques doutes et malheureusement, ils ont tendance à se confirmer. L'Inde, la Chine, une grande partie de l'Asie, le Chili en Amérique latine, la Turquie. Non, mais je prends toute l'Asie. Oui, non, mais je mets à peu près toute l'Asie est émergente. Malheureusement, je ne vois pas de pays émergent en Afrique. Soyons...
Kenya.
Non.
Claire Fage,
oui, ce n'est pas uniquement un système de vases communicants. Effectivement, la baisse de la facture pétrolière profite aux pays qui sont importateurs nets de produits énergétiques, mais il y a aussi des effets induits de la baisse des cours du pétrole pour les pays qui sont très dépendants des échanges avec les pays producteurs de matières premières.
Par exemple,
en Asie centrale, on a remarqué que c'était les pays non exportateurs de pétrole qui étaient les plus victimes de la chute des cours parce que ils subissaient la baisse de la récession russe. comme ils échangeaient énormément avec la Russie, ils exportent moins de produits agricoles, moins d'alcool par exemple depuis l'Arménie. Les émigrés de ces pays, par exemple Tadjikistan, en Russie, envoient moins de transferts d'argent au pays. Et finalement, ce sont les pays producteurs, Ouzbékistan, Turkménistan, les produits producteurs d'énergie, qui ont le moindre impact à cette chute des cours.
Didier, Julienne ?
Moi, j'ajouterais l'impact des monnaies. Si les prix des pétroles baissent et que malheureusement le taux de change contre le dollar va dans le sens inverse, bien entendu, pour les consommateurs, cela représente un moindre avantage. Néanmoins, pour une fois, la baisse des matières premières a un impact positif sur quelqu'un. C'est quand même sur des consommateurs.
Nous,
nous tous.
Nous quatre autour de cette table.
Moi, je suis heureux lorsque je vais faire le plein de ma voiture et que je m'aperçois que le prix a baissé, même si ce n'est pas assez par rapport à ce que nous payons nous en France en taxes et avec l'effet du taux de change, je me dis bon, c'est quand même une bonne chose, n'est-ce pas? Mais je m'arrêterai là parce que ce que dit Claire est extrêmement important sur l'impact entre pays voisins de pays producteurs.
Philippe Chalmin, je me souviens vous avoir entendu dire que des prix très très forts du pétrole, très élevés, étaient une bonne chose parce que nous devions, nous consommateurs, nous habituer à un pétrole rare.
Oui, malheureusement.
Il est moins rare aujourd'hui, c'est tout ça.
Je suis... nous allons avoir à Paris dans quelques semaines la COP21. Ça va être beaucoup plus difficile de faire la COP21 avec du pétrole à $50 le baril, avec du gaz naturel à $7 le million de BTU, et surtout, le pire, avec du charbon à $50 la tonne. C'est dramatique.
C'est d'ailleurs un paradoxe. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur la Terre, et nous n'avons, et toute proportion gardée, les prix de l'énergie n'a jamais été aussi bas, avec une population aussi élevée. Pareil pour les produits agricoles. C'est un paradoxe. Nous vivons une époque actuellement assez paradoxale de ce point de vue-là. Il y a des tas d'autres paradoxes. Moi, l'un des paradoxes qui m'étonne le plus, et je change de sujet l'abandon de la politique d'autosuffisance alimentaire chinoise, qui a dit tout d'un coup, l'année dernière, début de l'année, dit « finalement, je n'y arriverai pas. Mon pays ne pourra pas se nourrir lui-même. Je vais donc être obligé de réellement et officiellement compter sur d'autres pays pour pouvoir alimenter ma population avec de la viande, disons, de bœuf, plutôt que autre chose. » Pour moi, pour les marchés agricoles, c'est sans doute l'événement des dix dernières années le plus important.
Alors, on va revenir au pétrole, parce que baisse des cours oblige. On vient d'apprendre, par exemple, que le géant pétrolier Shell renonce à exploiter un gisement de sable bitumineux dans l'Alberta, au Canada, ce qui va lui coûter 2 milliards de dollars. Harim Lipold, journaliste au service étranger de RFI, était récemment dans cet état de l'Alberta, à Fort McMurray exactement, où il a rencontré Amadou, un ingénieur mauritanien.
J'ai fait mes études à Montréal, puis à Montréal, j'ai entendu parler de Fort McMurray, que c'est vraiment un bon endroit pour faire de l'argent facile et rapide.
Ça, c'était en 2011.
Oui.
Alors, est-ce que c'était facile de faire de l'argent?
Oui, c'était facile à l'époque, parce que vraiment, c'était l'économie, c'était on a eu ici un boom économique, puis c'était facile de trouver un emploi. C'est même facile de changer des emplois si tu veux, quand tu veux. Et là, je suis de retour aussi, mais bon, c'est pas vraiment les bons moments, c'est pas le bon timing, parce que cette fois-ci, on passe par une crise financière. Donc, ce qui fait que le boulot n'est pas vraiment disponible comme il était avant.
Alors, crise financière provoquée localement, essentiellement par la baisse des cours du pétrole. Aux yeux de Melissa Blake, la maire de Fort McMurray, à terme, la baisse des cours serait plutôt positive. On l'écoute toujours au micro d'Arim Lipold.
Les quelques conversations que j'ai eues avec des dirigeants d'entreprises tournaient toujours autour de cette question. Comment réduire les coûts de production? Si la production d'un baril de pétrole leur coûte $50, mais qu'ils obtiennent seulement $40 pour le baril sur le marché, ils ne vont pas s'en sortir. Moi, je pense que si la crise perdure, cela va renforcer l'industrie. On va perdre des emplois, c'est sûr. Mais à la fin, on finira par produire du pétrole à un moindre coût, ce qui rendra les entreprises plus compétitives.
Alors Didier, Julienne, est-ce que c'est symptomatique? Tout à l'heure, vous parliez de Glencore qui réduisait sa production pour moderniser une mine en RDC. Est-ce que c'est la même chose qui se passe au Canada et ailleurs dans le secteur pétrolier? Est-ce qu'on va réduire la production?
Est-ce qu'on va la réduire? On l'a déjà augmentée considérablement, comme on le disait tout à l'heure, aux États-Unis, grâce au pétrole et au gaz de schiste. Bon, c'est une bonne nouvelle pour le marché du pétrole, parce qu'il il coûte moins cher aux consommateurs. Shell, est-ce que c'est Shell? Oui, c'est Shell, qui a aussi renoncé à explorer en Alaska et dans le Grand Nord, tout simplement parce qu'elle dit qu'elle n'a pas trouvé, mais en réalité il y a aussi un gros problème lié à l'environnement là-haut. Moi j'estime qu'aujourd'hui, avec des prix à $50, nous n'avons pas besoin de produire plus, nous avons besoin de continuer à explorer de manière extrêmement importante pour savoir si on peut si on pourra continuer à produire du pétrole pas trop cher dans les années qui viennent. L'exploration, il faut jamais l'arrêter. Mais si on peut laisser du pétrole, du cuivre, du nickel ou autre en terre aujourd'hui parce que ça coûte trop cher de le produire par rapport au prix, moi je trouve que c'est une bonne décision, faire une pause.
Philippe Chalmin, le dernier mot de cette émission.
La vraie question sur le marché du pétrole est de savoir quel est le degré de résilience de l'industrie américaine du pétrole de schiste.
Résilience,
c'est-à-dire jusqu'à quel niveau de prix peuvent-ils produire?
Ils ont beaucoup baissé.
Ils ont énormément baissé, ce qui prouve qu'ils ont des capacités d'adaptation. Ce que disait la mer là, de l'Alberta, c'est des sables bitumineux. Les pétroles de schiste, c'est autre chose. Mais sur les pétroles de schiste, il y a 2 ans, on disait le break-even, c'est-à-dire le niveau de prix en dessous duquel il ne faut pas, le point mort était à $50. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à dire à 40. Et je ne serais pas étonné que dans 2-3 ans, on nous dise qu'ils peuvent sortir du pétrole de manière rentable à $30 le baril.
On dit no pain, no gain. Vous voyez qu'ici, dans le prix du pétrole, plus le prix du pétrole baisse, plus les gens font des efforts.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Didier Julien, Philippe Chalmin et Claire Fache. Cette émission a été réalisée par Guillaume Munier. Je vous dis pour ma part à la semaine prochaine pour un nouvel Éco d'ici, Éco d'ailleurs.
Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI.